Cette extrême droite, d'une part, elle garde la dimension nationaliste, xénophobe, l'idée au fond de supprimer des droits fondamentaux au regard de certains critères. Alors on n'est plus sur des critères de race, mais on est sur des critères culturels, religieux.
Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. En cette année d'élection, je me pose de nombreuses questions. Comment chacun choisit son candidat? En fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions? Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents? La guerre influence-t-elle notre vote? Dans ce podcast, je discute chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses.
Je vote.
Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec.
Tu votes.
Personnellement, je dis bien, j'irai voter.
C'est un devoir de voter.
Allez à voter.
Nous votons.
Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que telles à l'intérieur. Il n'y a pas eu de divergence.
À voter.
Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po.
Aujourd'hui, je m'intéresse à une question que j'ai vue tourner en boucle sur les chaînes d'infos en continu pendant cette campagne. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Il faut dire que lors de l'élection de 2022, la candidate du Rassemblement National est apparue presque modérée sur les questions d'immigration, de sécurité et d'islam par rapport au candidat de Reconquête, Éric Zemmour. Alors le RN a-t-il vraiment changé? Ou Marine Le Pen a-t-elle simplement édulcoré le discours? Et si c'est le cas, pourquoi une telle stratégie? Pourquoi nier être d'extrême droite?
Gilles Ivaldi, je suis chercheur au CVPOF et je travaille depuis de nombreuses années maintenant sur l'extrême droite en France, en Europe, et puis plus généralement sur la question du ou des populismes en Europe et aux États-Unis.
Moi, cette accusation d'extrême droite, elle m'insupporte, elle m'excède, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Franchement, ça devient pénible.
Pendant toute cette campagne présidentielle, et en gros depuis son arrivée à la tête du Front National, Marine Le Pen refuse d'être considérée comme d'extrême droite. Pourquoi refuser un tel qualificatif? À quoi renvoie l'extrême droite?
Ça reste un qualificatif qui, à ses yeux, est très stigmatisant. Parler d'extrême droite, c'est renvoyer effectivement, d'une part, à l'histoire de son parti, donc la renvoyer à la continuité, à l'affiliation avec le Front National version Jean-Marie Le Pen, et parce qu'elle sait aussi que le plus gros enjeu pour elle, et toute la campagne de 2022 l'a démontré une nouvelle fois, c'est d'asseoir sa crédibilité, c'est-à-dire de permettre à son parti d'être plus respectable, plus fréquentable, plus présentable, j'allais dire, et de pouvoir réunir ces fameux 50% des voix plus une qui lui permettrait de gagner l'élection présidentielle. Donc pour elle, se laisser enfermer dans l'étiquette d'extrême droite, c'est effectivement rester dans un univers politique qui est un univers de la marge, qui est un univers de la stigmatisation. Et donc il est bien naturel qu'elle réfute ce label. N'oublions pas quand même que lorsqu'on parle d'extrême droite, les gens ont encore, en tout cas pour les plus anciens, la mémoire de ce qu'a été l'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, donc des référentiels liés au fascisme, au nazisme, qui sont évidemment extrêmement connotés, extrêmement marqués.
À chaque fois qu'on parle de Le Pen, les gens font un rapprochement avec Jean-Marie Le Pen et on entend toujours des vieux clichés qui datent de 40 ans qu'on nous attaque sur Le Pen, Le Pen.
Il faut faire oublier ça.
À un moment, il faut peut-être passer à autre chose.
Être assimilé au nazisme, au fascisme ou au régime de Vichy est évidemment un inconvénient de taille pour tout parti qui aspire à gouverner. Du coup, l'extrême droite a largement édulcoré son discours, a tenté de se rendre plus fréquentable, cela dès l'après-guerre et dans tous les pays européens.
Ce que l'extrême droite a fait dans les années qui ont suivi la guerre, et notamment un peu plus tard, dans les années 60-70, c'est de reprendre quand même son patrimoine idéologique ou son logiciel idéologique et d'enlever deux éléments qui étaient extrêmement problématiques. Le premier, c'était le racisme et l'antisémitisme. L'extrême droite, telle qu'on la définit, si on fait référence au modèle de l'entre-deux-guerres, que ce soit le national-socialisme ou d'autres formes, il y a une dimension antisémite, raciste. Et ça, effectivement, dans l'après-guerre, très vite, les mouvements d'extrême droite ont compris que rester sur le racisme biologique de la race ou l'antisémitisme, c'était une fin de non-recevoir, notamment pour des mouvements qui aspiraient à rentrer dans l'arène électorale et à devenir des partis de gouvernement.
Autre caractéristique de l'extrême droite, du moins au départ, le fait qu'elle ne se reconnaisse pas dans le système démocratique, dans un système où le pouvoir est détenu par l'ensemble des citoyens.
L'extrême droite, telle qu'on la conçoit aussi, au départ, elle est antidémocratique. C'est-à-dire que l'extrême droite veut mettre, un terme au régime démocratique, passer à des formes soit autoritaires, soit totalitaires. Et là aussi, une des transformations très importantes d'une extrême droite plus moderne, plus récente, à laquelle Marine Le Pen se rattache, c'est d'avoir transformé finalement cette antidémocratie en une forme de populisme anti-système. Et ça, c'est très important parce que ça explique pourquoi aujourd'hui, les gens, au fond, ne voient pas ces partis comme des partis d'extrême droite. Parce que d'une part, objectivement, ils ne parlent pas de race. Ils ne sont pas racistes au sens, et Marine Le Pen a beau jeu de dire « je vous défie de trouver le mot race dans mon programme », il n'y a pas le mot race évidemment, parce qu'on y fait très attention. Et le deuxième élément, c'est que le populisme, il a une caractéristique forte, c'est qu'il dit en gros « la volonté du peuple doit prévaloir ». C'est au fond le peuple qui décide. Et en ça, ça a les apparences de quelque chose de profondément démocratique. Donc cette extrême droite, au fond, qui est devenue xénophobe et non plus raciste, et qui est devenue plus populiste finalement qu'antidémocratique, aujourd'hui elle a gommé les deux aspérités les plus fortes, qui lui permettent de se présenter avec le visage effectivement à la fois d'un mouvement qui n'est pas raciste et qui n'est pas antisémite, et surtout d'un mouvement qui n'est pas antidémocratique.
Pour notre chercheur, l'un des exemples actuels les plus frappants, c'est la Hongrie de Viktor Orban. Le premier ministre hongrois, qui vient d'être reconduit pour son quatrième mandat, se réclame de la démocratie illibérale. En réalité, beaucoup d'observateurs soulignent une dérive vers l'autoritarisme, vers une autocratie où les électeurs sont encore là, mais seulement pour la façade.
On voit bien qu'on garde les apparences de la démocratie, il y a des élections avec une opposition, des partis, mais que par ailleurs, les contre-pouvoirs, la liberté d'expression, les ONG, les médias, les juges constitutionnels, l'ensemble de ce qui fait au fond la vitalité démocratique des démocraties libérales représentatives, tous ces contre-pouvoirs sont muselés, sont affaiblis, sont sous contrôle. Et c'est ça qui aujourd'hui fait toute, je dirais, l'ambiguïté et tout le danger finalement de cette extrême droite qui avance masquée, c'est que son projet n'est pas antidémocratique, il est illibéral, au sens où il va à l'encontre de certains des principes fondamentaux de la démocratie libérale.
Les résultats sont sans appel. Le parti de Viktor Orban est en tête des législatives avec 53% des voix. Comment expliquer cette popularité de Viktor Orban malgré sa dérive autoritaire et sa proximité avec la Russie ?
La Hongrie de Viktor Orban assume un certain autoritarisme avec des contre-pouvoirs affaiblis et des libertés restreintes. Autre axe fort, sa politique de lutte contre l'immigration. Au nom de la défense de l'identité hongroise, le dirigeant a fait ériger un mur à la frontière avec la Serbie dès 2015 et récuse le droit d'asile des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient. Une dimension autoritaire, nationaliste et xénophobe que l'on retrouve chez Marine Le Pen.
On voit bien aujourd'hui, par exemple, Marine Le Pen dans son projet de référendum sur l'immigration. C'est un projet qui va à l'encontre de certains fondements, de certaines libertés qui sont inscrites dans les principes même de notre constitution, de notre régime politique. Donc, en cela, on voit bien qu'il y a une volonté d'aller à l'encontre de certaines des valeurs fondamentales sur lesquelles notre constitution, notre démocratie s'appuie. Sur la dimension autoritaire, aujourd'hui, on voit que la société telle que la conçoit Marine Le Pen, ça reste une société d'ordre, de répression, où au final l'ordre social doit prévaloir sur les libertés individuelles. On le voit dans des mesures qui ont l'air relativement anodines, mais sa mesure phare qui est la présomption d'innocence ou de légitime défense pour les policiers. On voit bien que c'est ça qui se traduit, c'est l'idée qu'au fond, l'État doit faire respecter l'ordre et que tout est finalement possible. Et en tout cas, on peut concevoir que c'est l'objectif principal. On le voit dans son rapport à l'Europe, dans son rapport à la souveraineté, dans son rapport aux frontières. Donc il y a aujourd'hui, si vous voulez, dans cette matrice à la fois nationaliste, autoritaire, xénophobe, et qui, encore une fois, vient vraiment toucher au cœur des principes constitutionnels. Il y a là les éléments de la matrice de cette extrême droite moderne qui, encore une fois, s'est constituée au détour des années 60-70 en France, un peu plus tard, par exemple, en Autriche ou en Italie, dans les années 80 aussi en Belgique. Donc, on a vu ce processus vraiment dans la plupart des pays européens où on avait des mouvements d'extrême droite, je dirais traditionnels, qui peu à peu ont fait cette transformation vers une extrême droite moderne et donc plus adaptée aussi aux enjeux contemporains.
L'extrême droite moderne ne parle plus de race, mais de lutte contre l'immigration, ne réclame pas la dictature, mais la démocratie illibérale. Elle se dit anti-système. Si le Front National s'est très longtemps dit hors des partis, il s'est fait supplanter sur ce sujet cette année par le candidat de Reconquête, le nouveau candidat d'extrême droite de 2022.
Je suis l'objet d'une justice politique qui veut m'interdire de parler non seulement d'immigration, mais de lier l'immigration à la délinquance et à l'insécurité.
Éric Zemmour a lui revendiqué ce côté anti-système plus fort encore que Marine Le Pen, tout en assumant, plus fort encore que le Rassemblement National, que l'immigration est à l'origine de tous les maux de la France. Bref, il a supplanté le RN sur ses thèmes de prédilection.
si on veut faire une filiation, probablement que ce que représente Marine Le Pen dans l'espace politique français, ce à quoi Éric Zemmour est venu s'arrimer finalement, c'est une tradition du nationalisme xénophobe, fermé, exclusif, qu'on retrouve chez des penseurs français comme Maurice Barrès ou Charles Maurras. Des gens qui, à un moment donné, ont conceptualisé l'idée d'une nation pure, homogène, qu'aucun corps étranger ne doit venir finalement souiller ou troubler. Et cette idée, finalement, elle a traversé les époques et elle se retrouve aujourd'hui dans le programme qui est celui de Marine Le Pen sur l'immigration, sur effectivement un retour à cette France éternelle, quasi charnelle, qui est au cœur, sinon du programme, mais au moins de la vision du monde qui est celle de Marine Le Pen.
Autre point commun entre Reconquête et le Rassemblement National, leur rejet de l'islam. Mais là encore, Marine Le Pen est apparue plus modérée qu'Éric Zemmour. Il faut dire qu'elle a largement fait évoluer son discours ces 10 dernières années. Elle qui aimait les formules choquantes, comparant les prières de rue à une forme d'occupation en 2012, dit aujourd'hui ne pas viser l'islam, mais l'islamisme. Et c'est au nom de l'islamisme qu'elle s'oppose au port du voile. Le voile, un sujet sur lequel le Front National s'est positionné il y a près de 30 ans et dont Marine Le Pen s'est emparée d'une façon bien particulière.
Un des événements marquants, c'est quand même 89, le débat sur le voile islamique, où là, on voit que ces questions véritablement rentrent à l'agenda, produisent énormément de polarisation, à la fois dans l'espace politique mainstream et naturellement à l'extrême droite. Et là, effectivement, on voit comment le FN de l'époque va se saisir. Bruno Maigret va beaucoup travailler ces questions à l'époque. Il écrit beaucoup, à la fois dans ses ouvrages et dans toute la littérature programmatique du FN de l'époque, il ramène cette notion d'islamisation qui va devenir effectivement le cœur. Marine Le Pen va s'en saisir.
Je suis absolument opposée au port du voile partout, à l'université, dans la rue, dans le sport, absolument partout.
Simplement, voilà, elle va endosser un modèle qui est un modèle qui est d'abord celui des populistes néerlandais, qui est au fond de travailler cette question de l'islam par le prisme républicain.
L'islamisme, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie totalitaire.
Et l'idée, au fond, de stigmatiser l'islam au motif que ce serait une religion rétrograde et qui irait justement à l'encontre de certaines valeurs démocratiques fondamentale, les droits des femmes, la liberté d'expression. Et on voit bien comment Marine Le Pen s'est bien saisie de cette capacité à problématiser l'islam, non pas simplement sur le thème du choc des cultures, mais plus sur le thème de l'islam est un danger parce qu'il vient toucher des valeurs fondamentales sur les droits des femmes. Elle s'en est servie également pour les homosexuels. Elle a fait quelques raccourcis sur, au fond, pour les homosexuels, le principal danger, c'est l'islam parce que l'islam est homophobe. Donc, elle a utilisé, je dirais, ce nouveau prisme républicain, laïque, pour en fait en faire une arme assez opérante probablement pour effectivement s'opposer à l'islam. Et on voit bien qu'elle est sur la question toujours un petit peu à la frontière, puisque si on prend la question d'interdire le voile dans l'espace public, on voit bien que là, elle est à un moment donné un petit peu en porte-à-faux, parce qu'effectivement, elle ne peut plus là mobiliser totalement la laïcité ou les valeurs de la République pour dire « je vais interdire à quelqu'un de porter un signe religieux dans l'espace public ».
Interdire le port du voile dans l'espace public, à la fois un marqueur du programme de Marine Le Pen, une mesure correspondant à l'ADN du Rassemblement National et un handicap à mesure que la campagne a avancé et que Marine Le Pen a tenté de gagner en crédibilité. Elle a été plusieurs fois attaquée, questionnée sur ce sujet et face à ça, elle a été forcée d'ajuster son discours, tentant finalement d'atténuer cette interdiction en parlant d'un objectif à terme et d'une mise en place progressive.
Je sais très bien quels sont les problèmes qui sont liés au voile. Je sais très bien qu'il y a des femmes âgées qui le mettent parce que ça correspond pour elles à un moment de leur vie et qu'elles sont devenues grand-mères et que ça n'a pas la même signification.
Un recul pour paraître plus modéré, plus fréquentable. En plus de ça, Marine Le Pen a entrepris dès son arrivée à la tête du Front National une stratégie de dédiabolisation qui repose aussi sur toute une politique sociale. Un sujet sur lequel elle se situe à rebours des positions prônées par son père.
Le choix de Marine Le Pen d'allier la question sociale à la question identitaire, c'est un choix qu'elle a fait dès 2011 en fait. Je rappelle beaucoup dans mes travaux que ce que j'appelle le social-populisme de Marine Le Pen, c'est-à-dire ce populisme très protecteur qui parle de services publics, qui parle de protection sociale, qui parle d'augmenter les petites retraites, les salaires, etc. Le FN, originalement, était plutôt un parti qui a été assez séduit par les thèses libérales en matière économique. On se rappelle que Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, était très pro Reagan ou Thatcher, ils trouvaient que le libéralisme économique c'était formidable, ils voulaient privatiser, déréguler, etc. Je crois que c'est une stratégie qui en fait remonte au tout début de l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du FN à l'époque, où elle explique très clairement que pour elle, il est important que le parti puisse marcher sur ses deux jambes. Et par ses deux jambes, elle entend la jambe traditionnelle, c'est-à-dire sécurité et immigration, qui est le cœur de cible et qui est vraiment le cœur de la doctrine du FN. Et puis pour elle, il y a un véritable enjeu, et qui est déjà aussi l'enjeu de se projeter sur cette fameuse crédibilité, c'est d'avoir aussi un programme économique et social cohérent, et qui puisse, au fond, permettre au parti d'être présent un peu sur tous les fronts et sur tous les types d'enjeux. Et c'est ce qu'elle fait quand elle arrive en fait à la tête du parti. Elle travaille aussi la question économique et sociale.
Moi, je pense qu'il faut essayer d'élever un peu le débat et de voir que doit être l'exercice du pouvoir dans des circonstances de crise sanitaire. Il ne vous échappe pas que moi, je n'ai pas vocation à être ministre de la Santé, hein, que mon ambition, c'est d'être chef de l'État.
Si les sujets économiques et sociaux n'ont guère porté chance à Marine Le Pen en 2017, on se rappelle tous ces flottements face à Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux-tours, ils ont été beaucoup plus porteurs en 2022. Marine Le Pen, en se présentant comme la candidate du pouvoir d'achat dès l'automne 2021, celle de la retraite à 60 ans et de la suppression des impôts pour les moins de 30 ans, a su se positionner sur le sujet prioritaire pour les Français.
Dans cette élection, Marine Le Pen a compris, bien avant d'ailleurs la guerre en Ukraine, c'est-à-dire avec ce qui s'est joué autour de l'inflation, de la montée des prix, avec la reprise post-Covid, elle a compris que la question du pouvoir d'achat, la question sociale, économique, allait devenir une question importante. Et manifestement, au regard des enquêtes, on voit bien que ça a joué, puisque la question du pouvoir d'achat a été l'enjeu numéro un de l'élection, comme vous le savez, et que sur cette question, Marine Le Pen est apparue comme la plus crédible et qu'elle a fait une campagne, effectivement, de choc de pouvoir d'achat. Elle a promis de rendre leur argent aux Français. Donc, elle a simplement, je crois, ajusté sa communication politique à l'enjeu du moment, ce qui était assez, finalement, une stratégie d'assez court terme, mais qui a fonctionné, qui lui a permis probablement d'agréger aussi un électorat qui était peut-être un petit peu moins concerné par les questions de l'immigration et de la sécurité, mais qui était véritablement très, très, très préoccupé par la question du pouvoir d'achat.
En se positionnant sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen s'est aussi clairement différenciée d'Éric Zemmour. Le RN se situe sur le terrain économique à des années-lumière de reconquête. Et plus largement, les deux mouvements n'ont pas la même stratégie, pas la même vision à terme.
Il y a une différence d'agenda économique. Éric Zemmour est arrivé encore une fois dans la campagne sur un agenda beaucoup plus libéral, sur une retraite à 64 ans, sur la dénonciation du trop d'impôts, de la bureaucratie, de l'assistanat, ce qui n'est pas vraiment le credo de Marine Le Pen. Après, il y a un deuxième élément qui est un élément stratégique. Éric Zemmour, son projet politique, c'est l'union des droites, c'est-à-dire de faire tomber ce fameux cordon sanitaire et de réunir dans un grand pôle qu'il espérait naturellement diriger, à la fois la frange la plus radicale des Républicains, le Rassemblement National et Reconquête. Donc ça, c'est son projet politique. Marine Le Pen, elle, depuis qu'elle a pris les rênes du FN en 2011, elle est sur un projet un petit peu différent, qui est ce qu'elle appelle l'union des patriotes ou l'union patriotique, qui serait plus un arc populiste qui finalement pourrait aller de la gauche à la droite, dans un milieu souverainiste, un milieu nationaliste, et qui souhaiterait au fond revenir à la souveraineté, revenir à plus de protection, plus de fermeture des frontières. Donc c'est deux stratégies très différentes, une stratégie un peu transclivage chez Marine Le Pen et au contraire une stratégie très ancrée à droite chez Éric Zemmour.
Je veux vraiment sauver mon pays que je crois en danger de mort.
Éric Zemmour a voulu faire l'union des droites et pour cela en 2022, il a misé sur la radicalité. Tandis que Marine Le Pen a cherché à gagner en modération et en crédibilité.
En 2022, elle a clairement, de mon point de vue, fait le choix d'une campagne de crédibilité. On l'a vu à la fois dans sa façon de présenter son image personnelle, éleveuse de chats, les selfies, les sourires, la campagne de terrain. On l'a vu dans son programme, en tout cas la façon de proposer son programme, où beaucoup d'éléments très polémiques, notamment je pense à l'Europe, étaient présentés de manière très furtive, voire totalement dissimulée. Et puis, contrairement à cela, on voit chez Éric Zemmour qu'il y avait une stratégie de radicalité. Éric Zemmour est entré dans la campagne sur des thématiques très radicales, notamment sur des positionnements très identitaires, en prenant à son compte le grand remplacement, plus tard en reprenant l'idée de la remigration, qui sont quand même des thématiques pour le coup très ancrée, très marquée à l'extrême droite, la plus radicale, la plus identitaire. Donc je pense que là aussi, il y avait une différence de stratégie entre une volonté de poursuivre cette fameuse dédiabolisation chez Marine Le Pen et une stratégie de radicalité, voire d'outrance même, de provocation chez Éric Zemmour. Et ce qu'on appelle également en sciences politiques la stratégie de niche culturelle.
Nier appartenir à l'extrême droite, édulcorer le discours, adoucir l'image, mais aussi tenter d'embrasser des thématiques plus larges liées aux questions économique et sociale, voilà la stratégie de Marine Le Pen pour tenter de conquérir le pouvoir. Rien à voir avec le positionnement d'Éric Zemmour, qui au contraire mise sur des positions radicales, exagérées, choquantes pour marquer les esprits. Une stratégie dans laquelle Gilles Ivaldi ne croit guère.
Je peux sans doute me tromper, mais je pense que l'aventure politique d'Éric Zemmour n'a pas beaucoup d'avenir. D'une part parce qu'on a quand même quelques précédents, c'est-à-dire qu'on a l'expérience de Bruno Maigret à la fin des années 90, qui quitte le FN, qui emporte avec lui la moitié des militants, la moitié des cadres, qui crée son propre parti et qui finalement échoue assez rapidement et disparaît de la vie politique. On a l'exemple de Florian Philippot avec les Patriotes, qui lui aussi a fait sécession et a voulu venir concurrencer Marine Le Pen sur son terrain et a totalement échoué. Donc mon sentiment, d'une part, c'est qu'Éric Zemmour n'est plus très très motivé par tout cela, parce que je crois qu'il a beaucoup cru à son destin présidentiel et qu'il a été fortement déçu. Donc je ne sens plus chez lui une très grande motivation, mais peut-être me trompe, je. Et l'autre chose, c'est que, encore une fois, l'expérience montre que le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National est bien implanté, il est hégémonique à l'extrême droite. Et donc je vois pas comment aujourd'hui Reconquête peut espérer venir bousculer le parti de Marine Le Pen.
Avec un score de 7% à l'élection présidentielle, Éric Zemmour pourrait n'avoir été que le phénomène d'une élection, tandis qu'avec plus de 40% des voix à l'élection présidentielle, Marine Le Pen progresse de scrutin en scrutin. En s'employant à gommer les aspérités du Rassemblement national, en adoucissant le discours loin des provocations d'antan, Marine Le Pen a tenté de donner une image d'elle plus acceptable et plus rassembleuse. Elle pourrait même laisser la présidence du Rassemblement national, histoire d'être moins associée à l'extrême droite, cette étiquette qui continue de lui coller à la peau, et pour cause. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. J'espère que ce nouveau numéro de Je vote, tu votes, nous votons vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour@publicsenat.fr.
Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive, Élise Colette.